Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Pour celles et ceux qui seraient passés à côté de l'explication, Franck Ferrand souhaitait revenir aujourd'hui sur les nombreux courriers qui nous sont parvenus quand nous avons franchi le seuil du 30 millième fan de l'émission sur Facebook. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Oui, je vous le disais il y a 10 jours, mais c'est vrai qu'après tout, tout le monde n'écoutait pas forcément ce jour-là. Alors je le redis aujourd'hui, vos propositions nous sont arrivées dans des quantités extraordinaires et nous avons donc eu l'idée de tirer de tout cela, non pas une, mais des dizaines d'émissions avec des sujets qui donc feront, je pense, une part essentielle de notre programmation de la saison prochaine. Alors je vous prie de patienter un tout petit peu et vous allez voir qu'il y en aura pour tous les goûts.
Aujourd'hui, vous avez choisi de nous emmener à Venise.
Oui, c'est le roman historique de Gabriel Milesi qui m'en a donné l'idée. La Vénitienne de Bonaparte se passe dans la cité des Doges, juste au moment où va s'achever le millénaire des Doges. Autant dire au moment de l'invasion de la lagune par les troupes de Bonaparte. Je me suis dit que ça ferait un sujet idéal pour une émission de début d'été. Comme ça, ça nous donne déjà envie d'aller voyager.
C'est vrai. Et à la fin de cette émission, vous répondrez à la question de Martin qui souhaite savoir pourquoi un morceau de la Drôme se trouve dans le Vaucluse.
Alors, je commencerai par répondre à Martin que c'est plutôt un morceau du Vaucluse qui se trouve dans la Drôme. Quant à savoir par quel miracle, la réponse à la fin de l'émission. Pour l'instant, nous allons voguer de concert vers la Sérénissime.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Aujourd'hui, place Saint-Marc, au bout des Procuraties, dans le fameux musée Corrère, vous allez passer sous des arcades et vous allez voir là, sur votre droite, une statue monumentale de Napoléon, une statue qui se trouve derrière une vitre blindée. Eh bien, figurez-vous que cette statue a une histoire. Elle a été offerte par l'empereur à Venise qu'il avait conquise. Elle a été placée à l'époque face au palais des Doges, hein, sur ce qu'on appelle la Piazzetta, juste au bord du grand bassin de Venise, si vous voulez. Et cette statue, évidemment, c'était un petit peu un défi posé comme ça à la population vénitienne. C'est en tout cas comme ça qu'elle a été perçue, car elle a été évidemment très vite retirée par les Autrichiens quand ils ont pris à leur tour possession de Venise. La statue a donc été retirée, bien vite oubliée. Et là, il y a seulement quelques années, elle a été rachetée par la Société française pour la sauvegarde de Venise, que préside Jérôme Zissenis, que je salue très chaleureusement. Cette statue, elle a été rachetée, restaurée, replacée. En tout cas, c'était le but de la fondation, hein, de la mettre au bout de la piazza. Seulement, les Vénitiens n'en ont pas voulu, figurez-vous. Ils se sont dressés contre le projet et c'est pour apaiser des tensions qui devenaient assez terribles que le Napoléon de marbre s'est retrouvé relégué derrière sa fameuse vitre pare-balles, à un endroit où on ne la voit pas trop quand on entre dans le musée. Alors, est-ce que ça voudrait dire que les Vénitiens ont un mauvais souvenir de Monsieur Bonaparte ? Sans doute, et ce n'est pas sans raison. Pour comprendre ces raisons-là, je commencerai par vous rappeler que Venise a donc été une république pendant plus de 1000 ans. Il s'écoule en effet près de 11 siècles entre l'élection de son même, on peut dire 11 siècles, entre l'élection de son premier doge, Paolucio Anafesto, on est en 697, jusqu'à la disparition de la République en 1797. Une immense période de ce qui, vu de loin, pourrait passer pour une forme de stabilité politique, mais qui, lorsqu'on entre comme souvent dans le détail, dans les recoins et les arcanes de l'histoire, se révèle beaucoup moins stable que ça n'en a eu. Alors, Venise avait construit, on peut le dire, son indépendance politique à partir de pas grand-chose quand même. C'est ça qui est extraordinaire. Elle l'a assise sur une puissance économique et surtout commerciale absolument extraordinaire. On connaît l'expansion phénoménale de la Sérénissime pendant tout le Moyen-Âge et notre Renaissance. Au IXe siècle, Venise s'émancipe de l'Empire byzantin dans le giron duquel elle se trouvait jusqu'alors. Et au moment du grand schisme, au moment du schisme de 1054, elle va prendre fait et cause pour l'Église romaine. Donc ça, c'est une sorte de déclaration de guerre à Byzance, qui n'a plus les moyens de s'y opposer du reste. Et ça va être, vous savez, D'abord un lieu d'escale pour les croisades. Rappelons-nous la célèbre croisade de 1204, détournée littéralement par les Vénitiens qui vont en profiter pour aller mettre Byzance, Constantinople à sac. Donc ça c'est en 1204. Et puis surtout, ça devient un lieu stratégique pour tous les échanges économiques, toutes les grandes marchandises venues de l'Orient. On pense à la suie, on pense à la soie bien sûr, on pense au poivre, enfin toutes les épices, etc. Bien entendu, tout ça passe par Venise, carrefour extraordinaire qui va s'enrichir dans des proportions extraordinaires. Au XIVe siècle, la Sérénissime, comme on l'appelle, développe donc cette flotte commerciale dans des proportions extraordinaires. L'arsenal de Venise devient le premier chantier naval du monde, une sorte d'état dans l'état. On a l'impression que la puissance de Venise va s'étendre au point de devenir une sorte de nouvel empire sur l'ensemble du pourtour méditerranéen. N'oubliez pas que toutes les îles méditerranéennes, notamment, ont des fortins vénitiens, appartiennent à Venise. Il y a des comptoirs partout, jusque sur la mer Noire. Et puis, à partir du XVe siècle, s'amorce cette phase de déclin, de recul. La raison essentielle de ce déclin, c'est évidemment, ce sont toutes les voies annexes de commerce qui vont faire que le commerce vénitien est contourné d'une certaine manière. Et puis, c'est une lutte à mort avec l'Empire ottoman, bien entendu. Certes, il y aura la victoire de Lépante, victoire de l'ensemble du camp catholique, hein, dirigé évidemment par les Espagnols à l'époque et sous l'égide de la papauté, victoire navale de Lépante en 1571. Mais le paradoxe, c'est que les Vénitiens l'emportent à Lépante et que ça n'en est pas moins le début de la grande descente pour eux, d'une certaine manière, une espèce de chute lente. Et comme vous savez, quand les États ou les civilisations sont immensément riches, évidemment, on ne voit pas vraiment le déclin. Il faut du temps pour que ça se sente, pour que ça se ressente. Mais en tout cas, ça va culminer, bien entendu, avec l'arrivée des Français. Alors, quand je parle d'arrivée des Français, c'est là qu'il faut faire entrer en scène Napoléon Bonaparte, bien entendu, qui, au moment du siège de Toulon, face aux troupes royalistes et britanniques, de la toute jeune République française, le général Bonaparte l'emporte. Il devient une sorte de sauveur, si vous voulez. On lui confie l'armée d'Italie. On est là le 2 mars 1796. Alors, il a reçu, Bonaparte, des ordres très précis du directoire. La République est déjà en guerre avec l'Autriche, entre autres, depuis avril 92. Elle n'a pas du tout l'intention de s'installer en Italie, et lui a dit Barras, il s'opposera à toute politique qui tenterait de créer un foyer français en Italie. Seulement, inutile de vous dire que le jeune général, lui, ne l'entend pas du tout de cette oreille. Et dès sa nomination à la tête de l'armée d'Italie, il va mûrir un grand projet, envahir en force l'Italie du Nord, contraindre l'Autriche à défendre la Lombardie et le Tessin, l'affaiblir et soulager de cette manière l'armée du Rhin. C'était après tout le but stratégique de cette campagne. La première étape de la campagne d'Italie va contraindre les Autrichiens à évacuer le Piémont, contraindre les Sardes à demander un armistice au gouvernement de la Première République française, cap désormais sur la Lombardie, et après avoir repoussé les Autrichiens, toute l'affaire de la bataille du pont de Lodi, etc., je ne vais pas entrer dans tous ces détails, Bonaparte s'empare de Milan, où il va faire une entrée solennelle, franchissant d'une foulée l'Adda et l'Olio, nous raconte Amable de Fournoux. Bonaparte pénètre dans Brescia le 27 mai 1796, il s'installe au monastère de Santa Eufemia, il viole ainsi pour la première fois le territoire de la République de Venise, encore tout auréolé par l'accueil triomphal que vient de lui réserver la capitale lombarde, il se pose comme le libérateur de ses populations, aussi malmenées par l'occupation autrichienne que délaissées par le gouvernement de la Sérénissime. Est-ce que c'est vraiment le point de vue des populations à l'époque ? J'en suis pas tout à fait sûr en ce qui me concerne. Alors Napoléon Bonaparte va rendre publique une lettre, une sorte de déclaration à la République Sérénissime, où il se moque quand même clairement des doges. C'est pour délivrer la plus belle contrée de l'Europe du joug de fer de l'orgueilleuse maison d'Autriche que l'armée française a bravé les obstacles les plus difficiles à surmonter, écrit-il. La victoire, d'accord avec la justice, a couronné ses efforts. On se croirait un peu dans du Corneille, mais n'oubliez pas qu'on est dans cette époque néoclassique de résurgence de la grande grande rhétorique à l'antique, les débris de l'armée ennemie se sont retirés au-delà du Mincio. L'armée française passe pour les poursuivre sur le territoire de la République de Venise. Ne vous inquiétez pas, dormez braves gens. Mais elle n'oubliera pas qu'une longue amitié unit les deux républiques. La religion, le gouvernement, les usages, les propriétés seront respectées. Que, entre parenthèses, c'est très intéressant parce que on dirait la déclaration qui précède le passage à l'Empire en 1804. Mais enfin, ça, c'est une parenthèse. Que les peuples soient sans inquiétude, la plus sévère discipline sera maintenue, tout ce qui sera fourni à l'armée sera exactement payé en argent. Autant dire que le directoire a un peu abandonné la direction des affaires à son général. À Paris, on ne maîtrise plus du tout les affaires. C'est Bonaparte qui tient les choses. Il ne ralentit plus du tout la marche de son armée, Bonaparte. Toujours plus en avant, vers l'Est. Et au mois de juin, le voilà qui occupe Bologne, puis Livourne. Et bientôt, c'est tout le nord de l'Italie qui, comme il l'avait prévu, se retrouve sous sa coupe. Les victoires de Bonaparte lors de la célèbre bataille du pont d'Arcole en novembre 96, puis de Rivoli en janvier 97, enfin la chute de Mantoue, tout ça va obliger les troupes du général autrichien Würmser à capituler en janvier 97. Cette reddition, nous dit Amable de Fournoux, est une date clé dans la campagne d'Italie à compter du 2 février 97. Bonaparte a les mains totalement libres pour s'imposer définitivement en Vénétie et lancer enfin son armée sur la route de Vienne. C'est quand même phénoménal hein, cette histoire. Je sais bien qu'il y a eu la Révolution, que tout change, etc. Mais enfin quand même, en 12 mois, ce général de 28 ans a défait 4 armées autrichiennes. Il a donné à la France toute une partie du Piémont. Il a fondé 2 républiques en Lombardie. Il a conquis toute l'Italie depuis le Tyrol jusqu'au Tibre, signé des traités avec les souverains du Piémont, de Parme, de Naples, de Rome. Enfin bon, le directoire le laisse poursuivre ses conquêtes, marcher sur la capitale autrichienne. La France officielle a décidé de déstabiliser la République de Venise, nous dit Fournoux, et de la dépouiller sans la renverser. Pour préparer le terrain à l'arrivée de l'armée d'Italie, une petite faction d'officiers français a infiltré des groupements clandestins lombards qui projettent de dépecer les provinces vénitiennes. Alors inutile de vous dire qu'il y a quand même un Sénat, il y a un Conseil des 500, enfin il y a toute une sorte d'institution à Venise qui, même si elles sont mourantes, exsangues, que sais-je, n'en subsiste pas moins. Et évidemment, le Sénat vénitien va réagir. Alors il dépêche auprès de Bonaparte 2 dignitaires de premier plan, le procurateur Francesco Pesaro, dont les sentiments anti-français sont connus de tous, et Giovanni Battista Corrère, justement. Les 2 ambassadeurs demandent à Bonaparte de rendre leur citadelle aux Vénitiens. Inutile de vous dire qu'ils sont bien accueillis. Il faut imaginer la réception qu'ils reçoivent, bien entendu. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que Bonaparte va demander à la République de Venise qu'elle lui accorde un prêt d'1 million de francs or par mois pendant 6 mois. Vous voyez le genre de prêt, librement consenti, n'est-ce pas? Avec la promesse de le rembourser une fois la guerre finie. Oui, compte là-dessus et bois de l'eau, comme on dit chez moi. Le refus de la Sérénissime d'accorder ce prêt à Bonaparte va définitivement mettre en danger les pourparlers, l'indépendance qu'avait acquise Venise. Il faut vous dire qu'encore une fois, cette indépendance, cette république, tout ce que représentait Venise était complètement au bout du rouleau. Il fallait quelqu'un de très énergique pour donner le dernier coup à l'édifice. Eh bien, cette personne, vous l'aurez compris, c'est Bonaparte, bien entendu. Alors, il y a une riposte, hein, le lundi de Pâques, 17 avril 97, après les Vêpres. Un incident va déclencher l'irréparable, nous dit l'historien de Venise. Une rixe dont il est impossible d'attribuer la responsabilité se termine par la mort de 4 soldats français. La riposte ne se fait pas attendre et des coups de canon sont tirés sur la foule par l'artillerie française. À ce moment-là, c'est l'insurrection générale, à la fois dans la ville, mais n'oubliez pas dans les campagnes, avec tous les villages qui dépendent de Venise, qui se sentent vénitiens d'une certaine manière. Alors là, du côté français, c'est la répression impitoyable, les exécutions sommaires partout, 8 des principaux meneurs sont passés par les armes, 50 d'autres coupables sont mis au fer, transférés au bagne en Guyane. On appelle tout ce mouvement, hein, toute cette espèce d'insurrection de dernière chance, les Pâques véronaises. Et bien entendu, pour Bonaparte, c'est le meilleur prétexte possible pour intervenir. Alors on va, Bonaparte en profite, il va signé des préliminaires de paix qui seront ratifiés un petit peu plus tard par le traité de Campo Formio. Le traité de paix contient de nombreuses clauses secrètes. C'est, nous dit Amable de Fournoux, un chef-d'œuvre de filouterie. Et c'est vrai que dans cette affaire, Bonaparte n'a pas avancé à visage découvert. C'est même le moins qu'on puisse dire. Il y a toutes sortes d'articles qui vont rester secrets jusqu'à Campo Formio. C'est un traité dans le traité, nous dit l'historien. Vienne s'engage à céder le Milanais. Parce que c'est le traité avec la puissance dominante jusqu'alors, avec l'Autriche bien entendu. Vienne s'engage à céder le Milanais destiné à former la future République cisalpine et reçoit en échange toute la terre ferme vénitienne comprise entre l'Olio, le Pô, la mer Adriatique et ses états héréditaires, ainsi que la Dalmatie, l'Istrie, vous voyez toute la côte adriatique. Quant à la République de Venise, elle se verra attribuer en compensation des territoires perdus les légations de Romagne, Ferrare et Bologne. Les plénipotentiaires autrichiens ont cependant pris soin d'ajouter une clause capitale. Les territoires vénitiens devant leur revenir ne seront acceptés qu'après leur cession préalable à la France. Il faut que Venise d'abord rétrocède l'ensemble à la France. C'était implicitement accepter la mort de la Sérénissime.
Et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, nous repartons à Venise avec vous, Franck Ferrand.
Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'invasion de Venise par les troupes de Bonaparte.
Alors pour tout vous dire, Céline, j'ai eu la chance l'année dernière, dans le cadre du tournage d'une émission de télévision, bien entendu, de me trouver, à peu près seul dans ce palais Manine, dans la salle même où était le dernier des doges. Vous imaginez toute cette longue cohorte qui traverse les siècles de tous ces doges, disons si vous préférez les présidents de la République vénitien, depuis le 7e siècle, et puis là, le dernier, il sait qu'il est le dernier. Voilà ce que nous dit Fournoux. C'est dans une salle pratiquement vide que le doge annonce le décret adopté. Et oui, car Bonaparte n'a pas laissé le choix à la République de Venise. Il a fallu en passer par là, si je puis dire. Pour la première fois, la démocratisation du pouvoir est envisagée à Venise. Pourvu, souligne le doge Manine, que soient sauvés la vie, la religion, la liberté et les biens des citoyens. Il reprend en quelque sorte la première déclaration de Bonaparte. Mais quand même, ça doit être terrible. Marqué au plus profond de lui-même, nous dit l'historien, épuisé physiquement, voilà 2 semaines qu'il n'a pas vraiment dormi, le vieil homme ne cède pas à la débandade générale. Avec infiniment de courage, il salue ses derniers fidèles et se retire dans ses appartements privés pour se défaire de ses vêtements princiers, retirant son corneau ducal et la petite coiffe de coton blanc qu'il portait dessous. Il le remet à son valet en prononçant ces mots qui trahissent son désarroi. « Prends-le, tiens, je n'en aurai plus besoin. » Ainsi se terminait le règne de cette brillante aristocratie qui avait gouverné pendant des siècles la Sérénissime République. Ça y est, si je puis dire, le doge n'est plus doge et Venise n'est plus dans Venise. Le dernier doge de la République vénitienne, avec tout le Grand Conseil, vient se démettre conjointement de ses fonctions. On abolit la République et on s'en remet à un gouvernement provisoire. Alors, on a rassemblé sur la place Saint-Marc toute la foule qui croit l'espace d'un instant que le Grand Conseil est là pour annoncer que le doge Manine et son conseil ont repoussé l'ultimatum de Bonaparte. Et quand les gens réalisent qu'en fait, non seulement il ne s'agit pas du tout de repousser l'ultimatum, mais qu'on l'a accepté et que la République n'est plus, alors c'est une véritable révolte. Les gens sont furieux. Il n'empêche, les Français sont là, si je puis dire. Nous, on dit d'habitude, les Prussiens sont là. Mais quand on est à Venise, c'est les Français, en l'occurrence. Le 15 mai, 3000 soldats français débarquent à Mestre sur 40 chaloupes. Ils investissent Venise dans le calme. Et le mardi 16 mai 1797, le peuple de Venise, à son réveil, découvre, sans surprise, tout le monde était au courant, mais avec sans doute bien de l'amertume, découvre les uniformes de l'armée ennemie dans tous les points stratégiques de la ville. Venise n'est plus que Venise, nous dit Amable de Fournoux, une ville isolée au milieu de ses lagunes. En 2 mois, elle a tout perdu. Son immense domaine, son honneur, sa puissance, occupée par les Français, elle est cependant encore un État indépendant dirigé par un gouvernement fantoche. Elle va le rester, pas longtemps, jusqu'au traité de Campo Formio, octobre 97. Le traité définitif, il est signé, il a été conclu, il est signé à la Villa Manin à Passariano. Alors, la Villa Manin, c'est pas le palais du Grand Canal, c'est une villa qui se trouve dans la campagne vénitienne, chez Ludovico Manin, chez le dernier doge. Par une clause secrète, l'empereur reconnaît à la France la rive gauche du Rhin, de l'Alsace à Coblence, c'est-à-dire qu'on s'est quand même bien arrangé les Autrichiens. Bonaparte garde Corfou, Zante, Céphalonie. C'est le début, vous savez, du grand rêve oriental d'un Bonaparte qui se voit déjà le nouvel Alexandre, en quelque sorte. Et puis en échange, Vienne reçoit l'archevêché de Salzbourg, ce prix sur l'Allemagne, l'Istrie, la Dalmatie et Venise. Voilà Venise livrée à l'Autriche. Seulement en 1799, la guerre ne tarde pas à reprendre entre la France et l'Autriche. Et ce qui va se passer, c'est qu'assez bientôt, la France va reprendre possession des territoires attribués aux Autrichiens, et donc notamment de Venise. Vous savez que Bonaparte est sacré empereur le 2 décembre 1804. Il va devenir l'empereur Napoléon Ier. Ce qu'on oublie un peu plus souvent de ce côté-ci des Alpes, c'est que par la même occasion, quelques mois plus tard, le 17 mars 1805, il est proclamé roi d'Italie. Alors, il va devenir, par la même occasion, le souverain de Venise, bien entendu. On va voir jusqu'où, dans un instant, avec Gabriel Milesi. Le 15 août 1811, Venise inaugure donc cette espèce de statue monumentale dont je vous parlais tout à l'heure sur la place Saint-Marc, cette statue qui ne fera finalement pas long feu. Venise sera libérée du joug napoléonien au moment de la chute de l'Empire, évidemment. Le traité de Vienne la restitue à l'Autriche, donc de 1815 jusqu'en 1866. Et puis après, c'est l'histoire de la République unifiée italienne. Et Venise va entrer, bien sûr, dans le royaume d'Italie. Mais pour devenir, disons-le, elle qui a été capitale du vieux monde, elle qui a été la sérénissime république pendant 1000 ans, elle qui a régné non seulement sur les économies mais sur les consciences, pour devenir une simple ville de province. Bonjour Gabriel Milesi.
Bonjour.
Une simple ville de province qui nous est néanmoins chère et qui reste une des plus belles destinations touristiques du monde. La destination préférée des Français d'ailleurs. Ils ont bien raison, nous allons voir pourquoi avec vous dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Venise, à l'époque où elle était française, avec votre invité Gabriel Milesi, économiste, ancien rédacteur en chef à Europe 1, auteur de La Vénitienne de Bonaparte aux éditions Michel de Maulle.
Alors Gabriel Milesi, votre livre nous transporte dans une Venise qui est au bord de la rupture en quelque sorte. Il faut, avant que nous ne parlions de Bonaparte, de ce qu'est devenu la Sérénissime par la suite... J'ai eu une expression quasi malheureuse il y a quelques minutes, j'ai parlé d'une ville de province et c'est vrai que les Vénitiens n'aiment pas qu'on dise ça, mais en même temps c'est devenu aujourd'hui une des villes de l'Italie unifiée par définition. À quoi ressemblait Venise, on va dire, dans les années 95, 16, 17, juste avant l'arrivée des Français? Est-ce qu'on peut dire que c'est encore une ville qui a de beaux restes?
C'était la ville la plus brillante d'Europe.
Ouais, tout simplement.
Il y avait une vie culturelle. Quand les Français... Venise était au bord du gouffre. En réalité, c'est un peu la propagande napoléonienne qui est arrivée à ça. Parce que Venise n'était pas au bord du gouffre. Elle avait...
Elle descendait gentiment depuis des siècles.
Oui, elle descendait gentiment, mais elle descendait surtout parce que l'aristocratie vénitienne avait cessé de faire du commerce parce que c'était risqué, parce qu'il y avait les Turcs, parce que on engageait des capitaux, on n'était pas sûr de les récupérer. Ils étaient devenus trop riches et ils ont préféré acheter des terres sur la terre ferme, comme on l'appelle, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la lagune, et vivre de leur rente. Et comme ils étaient très riches, ils passaient leur temps à jouer, à faire la fête.
C'est la villégiature de Goldoni, en fait.
Mais c'est la villégiature de Goldoni, c'est Casanova, bon,
bien sûr,
c'est quelques souvenirs, c'est cette époque-là. Hein. Mais c'est aussi la ville où il y a le plus grand nombre de théâtres au monde. C'est le moment où on construit la Fenice, un peu avant la chute d'ailleurs. Il y a des intellectuels, l'histoire que je raconte d'Isabelle la Théotoki, c'est une vénitienne d'origine grecque, mais dont la mère était vénitienne, mais qui a créé un salon littéraire qui a attiré les écrivains du monde entier. Balzac est venu chez elle, Chateaubriand, Byron, sans parler bien sûr des Italiens. italien.
Oui, c'est-à-dire qu'évidemment, la ville va connaître les soubresauts politiques que j'ai rapidement racontés et bien d'autres par la suite, mais elle n'en a pas perdu effectivement sa primauté intellectuelle. Vous parlez de la période romantique, on pourrait en dire autant de la période 1900, à l'époque où la famille de Paul Morand reçoit dans un même salon tous les plus grands écrivains de l'époque, où Proust va passer des séjours entiers au Danieli, etc. C'est-à-dire que Venise a conservé quasiment jusqu'à la Seconde Guerre mondiale cette espèce de primauté. Hein.
Absolument. Mais alors, ce qui se passe au 18e, vers la fin, c'est que, comme je viens de le dire, les Vénitiens cessent d'être des entrepreneurs et des marchands. C'était ça qui faisait leur force. Mais en même temps, ils dilapident l'argent accumulé par les générations précédentes. Et en même temps, l'aristocratie ne remplit plus son rôle politique. C'est-à-dire que les charges sont boudées. Et pourquoi on élit Manine comme dernier doge ? Parce que c'est le plus riche. Les autres, il faut engager sa fortune quand on est doge ou même quand on est ambassadeur. Simplement, on paye de sa poche. Et les aristocrates ne veulent plus faire ça. Donc, la classe politique démissionne. En gros, donc vous
la
avez
classe
deux,
politique
deux
démissionne.
Phénomènes.
La société s'est financiarisée. Elle ne fait plus de commerce, elle ne fait plus que de la finance. Finalement, ça nous rappelle une autre époque entre nous.
Non, elle fait quand même du commerce encore, hein, puisqu'on expédie toujours.
Oui, certes.
On expédie de la soie, des dentelles, etc., du verre, tout ça existe toujours.
On n'investit plus comme avant.
Mais c'est vrai, on n'investit plus comme avant. Venise est quand même, vous l'avez dit tout à l'heure, la principale industrie du monde avec l'arsenal. On sort une galère armée par jour. Parce que le travail est très bien organisé, on rassemble tout ça. Donc on ne peut pas dire que ça soit une ville moribonde. Ça a arrangé beaucoup
c'est
de Napoléon.
C'est le système politique qui est moribond.
Le système politique est moribond. Il y a des tentatives de réformateurs pour essayer. D'ailleurs, il y a une chose qui est très amusante. Si vous connaissez Venise, vous le connaissez. Il y a deux cafés. Il y a le Quadri d'un côté et le Florian
sur la place Saint-Marc.
Le Florian était celui des réformateurs et le Quadri celui des conservateurs, disons.
Oui.
Et il y a un affrontement. Il y a des vraies tentatives de faire des réformes. Manine n'avait pas la force d'aller jusque-là. En plus, Venise opte, quand elle voit arriver les troupes de Napoléon, elle n'a pas peur des troupes de Napoléon, c'est des va-nu-pieds, elle se dit l'Autriche va n'en faire qu'une bouchée, puis après elle se rend compte quand même que c'est un peu plus sérieux.
Et que les dés sont pipés.
Mais elle n'en a pas peur. Et Venise, surtout, opte pour la neutralité désarmée. Alors, ça, d'abord, c'est un signe de faiblesse, parce qu'on entretenait... Il y avait 50 ans que Venise était en paix, ce qui est quand même énorme à l'époque. Hein, ça n'existait pas, 50 ans de paix. Et donc, elle opte pour la neutralité désarmée en disant, de toute façon, nous avons le droit pour nous, on ne peut rien nous faire, puisque nous ne sommes pas armés. Ils n'avaient plus les moyens d'armer non plus, parce que ça coûtait très cher. Ils ne voulaient pas augmenter les impôts pour faire ça. Donc, Napoléon, c'est vrai, arrive dans une situation... Bon, il les manipule très bien, il manipule
conquis,
tout le monde très très bien, mais il arrive dans une période où vraiment les Vénitiens ont baissé les bras, ils ne pensent qu'à s'amuser. Imaginez d'ailleurs, pour donner un exemple, les gondoles. Alors, pourquoi les gondoles sont noires ? Parce que tout
elles
simplement...
Elles n'ont pas toujours été d'ailleurs.
Elles n'ont pas toujours été, mais à cette époque-là, au 18e, il y avait une telle surenchère pour montrer qu'on était plus riche que les autres, qu'on en était à mettre des pierres précieuses sur les gondoles. Alors le Sénat s'en est alarmé, et il a obligé toutes les gondoles à être noires, pour faire cesser cette espèce de surenchère. Et dans le même décret, il était interdit aussi aux femmes de porter des bijoux. Et ça, c'est assez amusant, parce qu'est-ce qu'elles ont fait, les femmes vénitiennes ? Ben, elles sont allées place Saint-Marc, devant le palais des doges, et elles ont fait une manif. Et du coup, on a retiré le décret.
Laissez-nous porter nos bijoux. Ça devait être extraordinaire.
Oui, ça devait être quand même quelque chose d'assez drôle. Donc, c'est dire que c'est une époque qui est très brillante, mais la classe politique a cessé de faire son job, et les entrepreneurs, enfin, ceux qui avaient fait la richesse de Venise, ont préféré devenir des rentiers. Donc voilà, la Venise telle qu'elle était, avec ses valeurs traditionnelles, a perdu complètement ses raisons d'être.
Alors on va venir dans un instant au personnage de votre roman et à cette histoire extraordinaire. Pour ce qui est de Bonaparte lui-même, on a bien compris qu'il y a plusieurs étapes dans la prise de pouvoir à Venise. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est qu'encore une fois, ni le directoire, ni la situation stratégique, ni même les premiers accords avec les Autrichiens ne prévoient que Bonaparte n'englobe Venise. Mais on a l'impression qu'il est aimanté, qu'il veut aller à Venise.
Ni même lui au début.
Mais peut-être pas lui. Oui.
Au début.
Oui.
Alors après, parce que quel est le problème de Bonaparte ? C'est qu'il a peur que le général de l'armée du Rhin arrive à Vienne avant lui.
Le but, c'est Vienne, évidemment.
Le but, c'est Vienne.
Il veut aller très vite vers Vienne, mais il a très peur que les Vénitiens, laissant les Vénitiens derrière le dos, derrière son dos, il l'empêche d'aller jusqu'à Vienne. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de faire la paix tout de suite pour couper la route à son collègue du Rhin et pour couper la route à tout le monde. Et à partir de ce moment-là, il va petit à petit obliger Venise. Il cherche tous les prétextes pour lui déclarer la guerre. Ils sont pas toujours justifiés d'ailleurs, mais il va tout faire pour faire tomber Venise. Et Venise, alors pour dire quel était l'état d'esprit de l'aristocratie à ce moment-là, au moment où les sénateurs se réunissent pour discuter de l'avenir de Venise, donc c'est-à-dire est-ce que la République doit se saborder telle qu'elle est pour changer les institutions. Bonaparte avait exigé que les Schiavoni, qui étaient les commandos de Venise, qui étaient des dalmates, quittent la ville. Et les Schiavoni quittent la ville, mais pour dire au revoir aux Vénitiens, parce qu'ils se sentaient très Vénitiens, ils tirent des salves en l'air. Et à ce moment-là, le Sénat, qui était réuni donc pour discuter de questions importantes, prend peur, se dit « ça y est, les Français sont déjà là », et il signe tout de suite l'abdication du régime.
Ouais, ça ressemble, comme assez souvent à Venise, ça ressemble à une sorte de tragicomédie, tout ça, ce pouvoir vénitien.
C'est très théâtral.
C'est très théâtral, voilà, exactement. Alors, les Français vont laisser la place aux Autrichiens, mais comme l'Autriche est bientôt vaincue en 1802, Napoléon revient. Là, c'est la mise en coupe réglée,
Alors après, ça devient un désastre. Alors, les Français pillent. Avant de partir, ils veulent rien laisser aux mains des Autrichiens et ils emportent tout.
Y compris certaines richesses extraordinaires, les chevaux de la basilique.
Alors, ils ont des richesses comme ça, mais ils emportent surtout tout ce qu'il y a dans l'arsenal. Parce qu'il ne faut pas que ça tombe aux mains des Autrichiens pour des raisons militaires, déjà. Et puis, ils emportent des œuvres d'art que Napoléon choisit, d'ailleurs. Il y a un traité qui lui permet de le faire. Et ils emportent aussi le lion qui est sur la colonne, le lion sassanide.
Sur la Piazzetta.
Et puis, comme il faut payer, comme Venise doit payer un tribut en plus, il faut trouver de l'argent pour faire ça. Donc on pille tout ce qu'il y a dans les églises, mais ça c'est même les Vénitiens qui le font. Et la seule chose qui est épargnée miraculeusement, c'est la Palla d'Oro qui est dans la basilique Saint-Marc, qui est un objet d'orfèvrerie absolument extraordinaire.
Une sorte de retable gigantesque, sublimissime.
Avec des pierres précieuses partout. Mais les gens pensent que c'est du toc. Que c'est du métal doré. Et donc, on la laisse, on ne la touche pas, alors que ça vaut une véritable fortune.
Alors, cette occupation française va être mal vécue, disons-le.
Oui, parce qu'ils pillent tout.
Oui, c'est ça.
Ils pillent, l'économie s'arrête, il n'y a plus d'argent. Et finalement, les Autrichiens sont accueillis un peu comme avec soulagement.
Quasiment comme des libérateurs. Ouais, donc,
sauf qu'ils n'ont pas été très bons non plus.
Oui, c'est le moins
comme l'écrit d'ailleurs Abel de Fourneau, que vous citiez tout à l'heure, c'est Avis Zorzi qui le cite. Oui. Il dit, en 7 ans, les Autrichiens, ils ont transformé la cité du carnaval éternel en une ville d'éternel carême. Vous voyez, donc c'est pas tellement mieux. Et surtout, l'économie croule petit à petit. Parce que quand on a un statut de capitale, il y a des fonctionnaires qui sont payés, il y a tout un travail de une capitale, ça attire, ça crée de dynamisme. À partir du moment où ça devient une ville occupée, c'est fini, quoi. Il y a plus de dynamisme économique. Et quand les Français reviennent,
donc après la victoire de Napoléon sur l'Autriche,
après Austerlitz, Venise est rattachée au royaume d'Italie, dont Napoléon est le roi. Eugène sera toujours que vice-roi, parce que
Eugène de Beauharnais, le beau-fils.
Napoléon tenait beaucoup à l'Italie. Comme par hasard, d'ailleurs, beaucoup de ses maréchaux porteront des titres italiens.
C'est vrai, oui.
Voilà. Et il est très attaché. Et il est génois.
C'est l'ancien Empire romain.
Il est génois. Est-ce qu'on peut penser que parce qu'il est génois, il a détesté Venise aussi, parce qu'il y a quand même une vieille rivalité entre Gênes et Venise. J'en sais rien. Il l'a jamais écrit.
Séculaire.
Mais on peut le supposer. Alors, les Français, ils ont l'intention de faire quelque chose de Venise. Là, Napoléon a changé un peu d'avis parce que pour lui, il envisage plutôt Venise pour une question de stratégie militaire. Venise, c'est la porte de la défense face aux Autrichiens. Alors, il prend des mesures économiques, prendre même de très bonnes mesures économiques. On crée un port franc, on améliore les moyens de communication, on fait des travaux publics, on démolit une église pour faire le palais royal, parce que il est venu une seule fois à Venise, Napoléon, du 29 novembre au 6 décembre 1807.
Il pleuvait d'ailleurs.
Il a fait un temps absolument atroce, moins 10 degrés, donc, mais il venait pas faire du tourisme. Il venait surtout voir où en était la défense de Venise. Donc il va d'abord regarder l'arsenal, il inspecte toutes les places fortes, etc. Puis il va à la Fenice, bien sûr, il y a des fêtes en son honneur, on construit des...
Parce
que
les
Vénitiens
ont
toujours gardé le sens de la fête. Ils savent très bien faire des fêtes.
Jusqu'à nos jours.
Et jusqu'à nos jours. Et bon, et puis donc, même s'il n'y a plus d'argent, mais on fait quand même des fêtes, quoi. Et alors c'est là où il transforme... Il faut un palais royal pour le recevoir. Mais le palais royal, c'est le palais des Doges. Et il ne veut pas aller dans le palais des Doges, donc on va transformer ce qui aujourd'hui est le musée Corrère, mais qui à l'époque était les procuraties, on le transforme en palais royal, on rase tout ce qu'il y a devant pour avoir la vue sur la lagune, et on fait les jardins royaux.
Donc c'est ça, ce qui vient d'être restauré aussi d'être magnifiquement depuis...
Voilà, qu'on appelle les appartements de Sicile.
Depuis une dizaine d'années, parce qu'effectivement, tout ce qui a été fait pour les Français servira en réalité aux Autrichiens.
Vivaldi sur Europe 1 avec un extrait du concerto La Tempesta d'Imar. Vivaldi dont nous parlions ici même il y a quelques jours,
et
Franck.
Oui, nous en parlions avec Eve Ruggieri l'autre jour. Eve Ruggieri qui a consacré ce coffret Eve Ruggieri raconte à Vivaldi, mais à 29 autres compositeurs. Et j'ai écouté ça tout le week-end. Je le recommande évidemment à nos auditeurs. Alors, nos auditeurs s'impatientent, Gabriel Milesi. Comment vous est venue l'idée de cette Vénitienne de Bonaparte, nous demande notamment Julie. On va y venir à votre roman. Un mot peut-être encore juste de cette occupation française et de Bonaparte. Qu'est-ce que Venise aujourd'hui doit à Bonaparte?
Alors, elle lui doit le cimetière, oui. Parce qu'il n'y avait pas de cimetière avant d'enterrer les gens dans les églises ou sur les places. Elle lui doit les jardins, les giardini maintenant, qui sont là où a lieu la biennale. Mais ça a été...
Le cimetière, c'est la petite île...
Voilà, l'île de San Michele, qui est entre Murano et Venise.
Qui a une forme carrée, en fait.
Les giardini, donc, mais il a fallu pour ça raser tout un quartier, y compris des églises, mais bon, il fallait des jardins à Venise, parce que c'était une question de salubrité. Et puis surtout, alors, bon, il a fait beaucoup de travaux publics, des choses comme ça, mais et il a pris des mesures économiques intéressantes. Le problème, c'est qu'au même moment, il y a eu le blocus continental.
Voilà.
Et donc, toutes les bonnes mesures qu'il avait prises, elles ont été ruinées par le blocus continental. Et donc, Venise s'est retrouvée au bout du compte, encore plus ruinée qu'elle ne l'était avant, parce qu'en plus, il fallait entretenir les troupes françaises, il fallait verser de l'argent à Napoléon, etc. Donc, Venise s'est retrouvée encore plus en mauvais état qu'elle ne l'était après les Autrichiens.
Malgré, je pense, une assez bonne volonté de l'empereur, hein, puisque il avait voulu faire de Venise quasiment un modèle de ce que la France pouvait apporter, en quelque sorte, à d'anciennes institutions.
Absolument, mais après, il n'a pas eu le temps d'arriver jusque-là.
Il avait même fait un drapeau.
Alors, le drapeau, oui, ça, c'était très amusant, parce que il avait fait le drapeau de la République Cispadane, dont les couleurs étaient vert, blanc, rouge, et qui deviendront après les couleurs du drapeau italien d'aujourd'hui, quoi. Au moment de la municipalité provisoire, les élus étaient portaient des écharpes tricolores vert, blanc, rouge à Venise aussi. Donc c'était vraiment...
On voit d'où vient le drapeau italien.
D'où vient le drapeau italien, c'est lui qui l'a fait.
Et qu'une fois de plus, un jour, je crois d'ailleurs que ça vient d'être fait. Hein.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est que même loin, il s'occupait de tous les détails.
Ah oui, tout.
Tous les détails. Un jour, il écrit une lettre à Eugène en lui disant « On me dit que le pain est mauvais à Palmanova, veuillez y remédier. » Vous voyez, alors qu'il est, je sais pas où, sur un champ de bataille.
Il
a apporté, bien sûr, le code civil.
L'exemple célèbre,
toutes les règles françaises, quoi.
Du décret de Moscou.
Le cadastre est encore aux couleurs françaises.
Oui, bien sûr. Voilà. Et il y a quelque chose, d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que quand on est à Venise aujourd'hui, il y a assez peu de souvenirs de cette occupation française, mais en revanche, il y a beaucoup de l'occupation autrichienne qui va suivre. Quand même dans une ville un peu autrichienne, il faut dire.
Ils sont restés beaucoup plus longtemps.
Mais bien sûr, bien sûr. Alors, pendant cette longue occupation autrichienne de 1815 à 1866, il y a quand même des mouvements qui veulent réinstaurer l'ancienne République. Hein. Il y a des mouvements républicains, notamment à la faveur du mouvement révolutionnaire de 1848.
Il y a un moment très important en 1848, avec une révolte qui est menée par Daniel Manin, qui a repris le nom du dernier doge, justement, qui est un avocat juif. Et ils arrivent à chasser les Autrichiens de Venise et à créer une nouvelle république vénitienne. Bon, ça durera pas très longtemps. Mais en tout cas, ils y sont arrivés et les Autrichiens ont bombardé Venise. Enfin, ça, ils avaient aucune peur de détruire quoi que ce soit. Mais finalement, Manin a été exilé à Paris.
Ce deuxième Manin, si on peut
dire. Il est revenu après. Il est enterré, son tombeau est contre la basilique Saint-Marc. Ça, c'est une chose que Napoléon a apporté aussi, de faire de la chapelle des Doges, qui était la basilique Saint-Marc, la cathédrale de Venise.
Voilà, oui. Voilà. Il y a toujours une forme de rationalisation dans les réformes napoléoniennes. Alors, revenons à la période même de votre roman, hein, à ces années de frémissement et d'invasion de la lagune. Votre héroïne Isabella Teotoki est une sorte d'égérie, on peut dire. Hein. C'est la dame des salons, en quelque sorte. C'est la madame de Staël.
Byron l'a appelée la madame de Staël italienne.
Italienne, oui.
Énormément influente. Très grande finesse culturelle. Et elle va avoir, je pense qu'il faut quand même le dire, elle va tout d'un coup, mais c'était plus un jeu de l'esprit, elle était très proche des idées des Lumières, elle aimait parler, elle aimait philosopher, et un jour, elle rencontre un Français qui arrive de Naples, d'où il a été chassé par la reine de Naples, parce qu'il avait écrit, il était à l'ambassade, il avait écrit des choses qu'on ne devait pas dire, quoi, pour faire court. Et il a été chassé de Naples et il est venu s'installer à Venise. Et là, il rencontre Isabelle et ils vont avoir une histoire d'amour qui a duré 5 ans. 5 ans au bout duquel il est expulsé de Venise comme espion du directoire. Et entre-temps, il a beaucoup voyagé en Italie. Il a recopié des centaines d'œuvres d'art. Il connaissait très très bien toute la peinture italienne. Et il a sûrement... j'ai forcé un peu le trait, mais il a sûrement créé des réseaux qui permettront après de propager les idées des Lumières. Et quand il va rejoindre Napoléon, puisqu'il ira avec lui, il ira avec lui en Égypte aussi. C'est Vivant Denon, donc
c'est Vivant Denon, hein.
Dominique Vivant Denon, qui est le futur créateur du Louvre et qui a probablement donné la liste des choses qu'il fallait prendre en Italie quand Bonaparte.
C'est l'œil artistique de l'empereur.
C'est l'œil artistique de l'empereur, ouais. Mais il en a fait quand même le créateur du Louvre et il lui a confié une mission très importante.
Vous parlez de la Vénitienne de Bonaparte, c'est la Vénitienne de Vivant Denon que vous nous racontez.
Oui, mais comme elle est proche de Vivant Denon et que Vivant Denon est proche de Bonaparte, elle va donner. Parce que à l'époque, on n'a pas de satellite. Quelle est la profondeur des canaux? Qui le sait? Qui le sait? Alors, elle envoie.
Il faut avoir affaire à la population locale.
Elle envoie des gens la nuit.
Qui
font semblant de promener des touristes et qui sondent pour voir la profondeur des canaux. Et ça, elle le communique à Napoléon.
En fait,
donc c'est un peu... Mais parce qu'ils espèrent tous que Napoléon va changer ce gouvernement, mais pour le transformer et pour en faire un vrai gouvernement vénitien.
Ce qui est inouï, c'est que chaque puissance d'Europe a ses propres espions. C'est un peu le Tanger de l'époque, on a l'impression, Venise.
Ça grouille d'espions. Pourquoi? Parce que tout le monde veut que Venise se range à son côté pour... Alors, les Français veulent pour ne pas que Venise aille du côté des Autrichiens, mais il y a aussi les monarchistes français qui sont réfugiés à Vérone à ce moment-là et qui essaient d'attirer Venise dans leur camp aussi. Et il y a des espions donc de tous les côtés. Les Anglais, bien sûr, ils sont aussi. Et tout ça grouille d'espions pour essayer d'attirer Venise dans son camp. Et Venise, finalement, dira toujours non. Parce que au nom de la neutralité, ce qui montre quand même qu'ils sont... Enfin, ils ne savent pas décider.
C'est assez magnifique.
Ils n'arrivent pas à se décider. Quoi.
Non, mais pour cause. Il y a un gros passif, évidemment.
Oui.
Comment toujours expliquer que ces esprits un peu hors du commun se retrouvent comme ça? C'est fascinant que cette Isabelle-là se retrouve dans les bras de Vivant Denon.
Parce que ce sont des gens hors du commun.
Et voilà, c'est ça. Ouais, la réponse est dans la question, peut-être.
Alors, Isabelle-là, elle a...
Elle a eu
énormément d'amants,
oui.
Mais toujours de façon très discrète. Parce que je suis tombé sur une biographie d'elle, elle est morte en 1836, publiée en 1837. Mm-hmm. C'était une sainte. Voilà, au point que j'ai failli abandonner le personnage d'ailleurs, parce que
qu'elle a laissée.
Oui, c'est l'image qu'elle a laissée tout de suite. Alors après, il y en a eu d'autres. Elle a été la maîtresse d'un grand poète italien qui s'appelle Ugo Foscolo, entre autres. Mais elle a eu 3 mariages. Enfin, c'était quand même une femme très belle et très très courtisée aussi, mais très discrète.
Oui.
sur ce plan.
Elle était très discrète, mais elle savait exactement ce qu'elle voulait. C'est un très beau personnage que vous nous donnez à découvrir.
De femme d'idées, comme ça, de discussion, elle devient une femme d'action au service de Bonaparte.
Alors, je ne lirai pas toutes les réactions de nos auditeurs, mais Marc nous demande pourquoi votre invité et vous-même prononcez-vous Saint-Marc en oubliant le C final. Mon prénom est Marc et on prononce toujours Marc. Alors, effectivement, on dit Marc, mais la tradition, l'usage veut que quand on parle de la basilique ou de la place qui se trouve devant, on dise Saint-Marc. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Saint Marco.
San Marco, comme ça, ça met tout le monde d'accord. Mais à Paris, on a l'habitude, depuis des siècles maintenant, de dire Saint-Marc. S'amuser à se perdre dans les ruelles de Venise, y boire un café très tôt le matin, voir le marché aux poissons non loin du Rialto, visiter le musée Guggenheim, manger des fruits de mer et tant de choses à faire. Voilà un beau voyage, nous dit Frédéric. Eh bien oui, je vous disais que c'était quasiment une émission de départ en vacances que nous vous proposons aujourd'hui à travers ce très beau roman de Gabriel Milesi, qui n'est pas seulement le roman de Venise, qui est aussi le roman de l'esprit, le roman des lettres, si je puis dire, et qui nous donne à voir une période extraordinairement bouillonnante, ce qu'on a parfois tendance un peu à oublier au profit de l'analyse des événements politiques de cette époque troublée de la Révolution et des guerres de Bonaparte. Gabriel Milesi, La Vénitienne de Bonaparte, s'est édité chez Michel de Maulle.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Martin au sujet de la Drôme et du Vaucluse.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Martin. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Et il aimerait savoir pourquoi un morceau de la Drôme se trouve dans le Vaucluse. Et je vous laisse rectifier,
oui,
du coup.
Oui, alors c'est du Vaucluse dans la Drôme. Oui. En fait, c'est une petite enclave, si vous voulez. Cette enclave, elle est liée à l'histoire, bien entendu. C'est lié tout simplement à l'époque des papes. Hein. Vous savez, quand les papes résidaient en Avignon, bien entendu, c'est à ça qu'on doit cette particularité du territoire français. En 1317 exactement, le pape Jean XXII, qui était, vous savez, le pape Jean XXII, c'était ce pape valétudinaire qui d'ailleurs s'était fait élire en ayant l'air extrêmement malade. Il était moins malade qu'il en avait l'air, en l'occurrence. Mais bon, ce pape Jean XXII acquiert Valréas, qui est donc la ville principale de l'enclave, et il l'acquiert parce qu'il y avait là un vin dont on disait qu'il était miraculeux. En même temps, ça lui permettait de consolider les frontières du comtat vénécin. Et la ville de Richerange, qui est située à l'ouest de l'enclave, est incluse dans le domaine papal en 1320. Quant à Visan, elle est ajoutée en 1344 par le pape Clément VI, encore un pape avignonnais. Et Grillon, qui est une ville médiévale située à l'ouest de l'enclave cette fois, vient encore agrandir ce territoire en 1451. Donc on a un petit territoire qui est assez cohérent, si vous voulez. Et au moment du rattachement à la France des États pontificaux en 1791, ça forme le canton de Valréas, composé donc de quatre villes. La Révolution respecte cette particularité territoriale. Néanmoins, ça n'a pas été le cas à chaque fois, puisque les villes de Carpentras et Valréas vont faire partie de la Drôme de façon éphémère. Il n'empêche, au moment de la formation des départements, les habitants, après référendum, les habitants qui se sentaient provençaux dans l'âme, décident de rattacher leur enclave, de rattacher ce petit territoire historique au Vaucluse. Et voilà comment on se trouve effectivement avec un petit morceau de département qui se trouve dans un autre. Moi, j'aime bien ces petites particularités de l'histoire comme ça. Ça nous rappelle en quelque sorte d'où l'on vient. Vous savez, en France, ce sont des exceptions extrêmement rares. Si vous alliez en Angleterre, vous verriez que tout n'est fait que de ce genre d'exception, parce qu'ils ont un respect peut-être du passé, des traditions supérieures aux nôtres. Bonjour Elena Morna.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors opération coup de balai sur les vieilleries qu'on entasse à la maison. Vous savez, ces babioles qui embarrassent à la fois l'espace et l'esprit. Comment vendre, comment donner, comment recycler, comment les faire estimer? Eh bien en nous contactant, nous aurons un commissaire priseur avec nous au 3921 ou sur europe1.fr, Franck.
Aboli bibelot d'inanité sonore. Merci
comme
beaucoup
vous.
Elena. Et à demain Céline.
À demain Franck.